Bien le bonsoir tout le monde et bienvenue aux amateurs de sport en ce vendredi. L'été qui frappe enfin à la porte, c'est le week-end du Grand Prix de Formule 1 du Canada. On en parlera tout à l'heure. Un autre match de basket de la finale entre les Raptors et les Warriors ce soir. Lendemain de match de finale de la Coupe Stanley sur fond de controverse. Encore une fois, l'arbitrage qui est mis en cause. On va parler de tout ça avec nos invités ce soir. Et c'est un grand plaisir pour nous de casser la glace, d'amorcer l'émission de ce soir avec nul autre que notre ami Ron. Bonsoir Ron.
Salut Mario, salut tout le monde.
Comment vas-tu, mon cher?
Ah, ça va bien, ça va bien. Tout un match hier, on a toute une série, une vlimeuse de bonnes séries. Non, je pense qu'on voit du vrai bon hockey et que la meilleure équipe gagne, mais les deux sont bonnes.
Alors, mais qu'elles sont bonnes puis elles sont capables de rebondir après un échec. Ouais. On verra comment les Bruins pourront rebondir après la défaite d'hier. Je parlais d'un fond de controverse, Ron. On a tellement entendu souvent depuis le début des séries un œil au beurre noir pour la Ligue nationale à la suite de décisions douteuses d'arbitres que ou on va manquer de beurre tout à l'heure ou je sais pas, mais il reste ouais. Qu'as-tu pensé de la décision qui a été tant controversée, tant dénoncée hier? Bozak qui fait trébucher un défenseur des Bruins de Boston, c'est comme une espèce de croque en jambe. Ça arrive vite, la rondelle est pas loin, mais David Perron marque quelques secondes après, Cam Neely lance une bouteille dans sa loge, tout le monde est furieux, et ça devient le but gagnant.
Écoute, contrairement à ce qu'on a vu comme controverse par le passé dans les autres séries, et je fais référence évidemment lorsque Vegas pensait bien avoir gagné le match, mais s'est retrouvé avec un 5 minutes, puis l'adversaire en a profité pour marquer 4 buts en avantage numérique. Mais ça, c'était une décision de jugement, oui, ok, d'accord, mais là-dessus... Moi, je pense qu'il y a des décisions où le vidéo te permet de regarder attentivement si c'est un hors-jeu, si c'est un bâton trop élevé, si la rondelle a frappé. Tu comprends, Mario?
Est-ce que tu souhaiterais qu'on puisse utiliser la vidéo dans une situation comme celle d'hier?
Non. Celle d'hier, tu ne peux pas. Et j'ose espérer qu'on ne le fera jamais parce que c'est une décision d'arbitre, OK? C'est une décision de jugement. Un jugement, c'est un jugement. Même si tu regardes la vidéo par la suite, et je parle de McCreary, qui est à Toronto, un ancien arbitre de la Ligue nationale, excellent arbitre, qui lui peut déterminer si effectivement il y avait des circonstances, des situations où il y a eu un enjeu, la rondelle a frappé le filet ou quoi que ce soit, ça c'est, on dit en anglais, cut and dry, c'est clair, c'est précis.
La Ligue, d'ailleurs, n'a pas commenté la décision des arbitres hier.
Non, ça, c'est une question de jugement. Puis une question de jugement sur la glace, là, tu peux ne pas être en accord avec la décision. Et je sais que Bruce Cassidy n'était pas en accord, Cam Neely n'était pas en accord. Mais l'arbitre, là-dessus, vit avec sa prise de décision. Maintenant, Kelly Sutherland, qui est très près du jeu, je le sais, ce qui s'est passé dans sa tête, je peux te le dire, je ne lui ai pas parlé, mais je sais que dans sa tête, lui et Steve Kozari, hier, voulaient, comment dire, donc, avaient comme intention de laisser les joueurs jouer, laisser aller le jeu le plus que possible. C'était l'attitude qu'on avait adoptée.
Permets-moi de te relancer sur cette piste-là exactement, Ron, juste dire un commentaire. C'est que, tu sais, dans le fond, là, Neely a bien beau être furieux hier dans sa loge. Ça marche par système de cotation, de votation, d'évaluation, les arbitres. Les arbitres qui commencent les séries, c'est parce qu'ils font l'unanimité chez une majorité de dirigeants de la Ligue nationale. Jusque-là, je suis pas dans le champ, Ron. Et plus ça va en série, ainsi soit-il. Donc, les gars qui sont là, Neely a dû l'aimer bien souvent pendant l'année parce qu'il a peut-être laissé passer une infraction à un moment donné qui était limite, mais qui a tourné sous son bord. Ouais. Là, ça a pas tourné sous son bord. Donc, dirais-tu qu'on a l'arbitrage avec ses bons côtés et ses mauvais côtés, mais l'arbitrage que les dirigeants souhaitent avoir, qu'on laisse les joueurs décider?
Ouais, c'est ce qu'ils souhaitent avoir. Bien expliquer ça, sauf que un gars comme Kelly Sutherland ne peut pas laisser aller ce jeu.
OK.
Parce que ce jeu...
C'est une erreur.
C'est une erreur. Pourquoi? Vous allez me poser la question. Pourquoi? C'est parce que c'est un joueur d'attaque qui cause une infraction évidente et son équipe reprend possession pour compléter le jeu et marquer un but. Ça, là, t'apprends ça dans le Pee-wee A.
Mais tu sais pas, l'arbitre sait pas à ce moment-là que quelques secondes plus tard, il va y avoir un but, cependant.
Non, mais il sait, il sait toutefois qui a pris possession de la rondelle.
Et là, il aurait pu siffler immédiatement, mais il aurait quitte à lever le bras tard un peu.
Un peu. Mais vous savez, là-dedans, là, les amis à l'écoute, là, lorsqu'on dit laisser aller le jeu un petit peu, on tolère un peu plus et tout ça, ça veut pas dire d'arrêter de travailler. Ça veut pas dire d'arrêter d'arbitrer le match. Si une punition, c'est une punition, qu'on soit à 3 minutes, 5 minutes de la fin de match, faut tu l'appelles, la décision.
Non, ça, et je suis d'accord.
Conclusion, Wes McCauley, qui ne travaille pas dans ce temps-ci, le numéro 4, qui est le meilleur arbitre, devrait revenir au moins, on le souhaite, pour le numéro 7. Conclusion, Kelly Sutherland, le 11, ne travaillerait plus jamais. D'après moi, Kozari, c'est terminé aussi. Mais là, on a de la difficulté. Stephen Walken a de la difficulté parce que les gars s'éliminent.
C'est une mauvaise année pour l'arbitrage, selon toi, Ron? C'est une des pires années que tu as vues dans ton expérience?
Oui, c'est une mauvaise année, de mauvaises décisions, mais surtout aussi, on n'est pas allé aux vidéos lorsqu'on devrait aller aux vidéos. Mais je pense que, de toute évidence, là, une attente de 49 ans pour Saint-Louis. Puis je pense que Saint-Louis pourrait remporter la Coupe Stanley. Dans la controverse ou non, dans 10 ans d'ici, on n'en parlera pas. Même dans 6 mois d'ici, on n'en parlera pas. Et je leur souhaite la meilleure des chances parce qu'ils le méritent. Travaillent fort, tout ça. Oui. Boston aussi. Mais hey, quand tu regardes ça, là, rapidement, on fait un genre de conclusion de tout ça. Là. Alors moi, je dis ceci. En passant, les 4 équipes qui ont terminé 7-8 dans leur conférence ont gagné la première ronde. Fait que 7-8 maintenant, là, entrer, accéder aux séries de fin de saison, c'est primordial, c'est important, c'est un must. Puis tu peux pas, je pense que Marc Bergevin doit comprendre encore plus aujourd'hui, tu peux pas dire, non, faut que tu fasses l'impossible pour te rendre la série, surtout quand tu t'appelles le Canadien de Montréal.
Est-ce que Marc Bergevin ferait preuve d'un bon ou d'un mauvais jugement s'il décidait, si c'est vrai qu'Eric Carlson souhaite vraiment obtenir une offre du Canadien de Montréal, on n'en est pas sûr, mais si c'est vrai, est-ce qu'il fait preuve d'un bon ou mauvais jugement si lui offrait un contrat à Eric Carlson?
Ben, on n'en est même pas là, parce que je dois vous préciser que d'aucune façon, est-ce que Don Meehan ou Marc Bergevin sont en contact. Dans le cas de Carlson.
Mais ils n'ont pas le droit en ce moment, là. Ils n'ont pas le droit, là.
Non, mais.
En dessous de la couverte, ouais.
Ben, tu sais comment c'est. Alors. Mais d'aucune façon, je pense que Carlson se retrouvera à Montréal. Bon, en tout cas, je vais me faire plus clair. Carlson ne jouera pas pour le Canadien l'an prochain.
OK.
OK? Alors, ça, c'est mon point de vue. Et je pense que c'est aussi, je m'avance. Je pense que ce ne sont pas les intentions de Marc Bergevin non plus.
Et est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise décision de ne pas songer à amener Carlson s'il est disposé à venir?
C'est certain que lorsque tu écoutes ben du monde depuis 4 jours, il y en a qui apportent d'excellentes raisons et excellents commentaires en général, à savoir que ce serait drôlement positif et intéressant, et ça aiderait le Canadien à plusieurs niveaux, l'arrivée d'un gars qui a un point par match, un gars qui peut changer, transformer ton avantage numérique, un gars qui, en tout cas, est un défenseur numéro un dans la ligue. Il deviendrait ton meilleur défenseur. Bon, c'est sûr, combien il te coûte? Il t'en coûte 9, il t'en coûte 10 par année, combien il veut? 5 ans, 6 ans? C'est pas là où le bas blesse, c'est pas là pantoute. Il est certain qu'actuellement le Canadien ne recherche pas un défenseur vedette droitier. Bon, ça c'est Carlson. Il est certain que le Canadien ne recherche même pas un défenseur vedette. Quand je dis ne recherche pas, c'est sûr que s'il reçoit un appel, Marc Bergevin, d'une équipe en particulier, pour dire on fait une transaction au monstre dans le style Weber Piqué il y a de ça quelques années, c'est sûr qu'il va écouter, mais pour le moment, il ne recherche pas ça. Ils ne le feront pas, le
moment. Mais moi, je veux savoir si tu penses que c'est une bonne idée de...
Ben, écoute, moi, n'importe quand tu peux aider ton équipe avec un joueur vedette, un joueur déjà établi, puis tout ça, je me fous comment ça coûte. Ça fait 2 ans déjà que tu laisses sa table 8-9 millions, là, le Canadien.
Exact.
Qui est supposé d'être une équipe à cap, un cap team qu'on appelle. Oui. Un cap team, ça veut dire tu maximises, tu dépenses tout ton argent.
Oui.
Tout ton argent. Mais lui, Marc Bergevin, il dépense pas tout son argent parce que, pas parce qu'il veut en faire sauver à son patron, c'est parce que il veut pas signer. Tu sais, je vais donner un exemple. Carl Tourist. Tourist, Nashville, 6 ans, 6 millions. On veut se débarrasser de lui. Tu sais, 40 points. Tu sais, des fois, là, tu sais, des gars à long terme, là, tu leur donnes ce qu'ils veulent, ou à peu près, tu te retrouves 2 ans plus tard. Wow! Wow! Fait que tu l'as dépensé, l'argent, mais l'as-tu bien dépensé? Tu sais? Fait que, tu sais, Osner actuellement, on se pose des questions. Il reste-tu, il part-tu, on rachète son contrat?
Marc le dit lui-même, tu sais, des fois, on se trompe, puis tu viens de mentionner un cas dans lequel il s'est trompé avec Carl Osner, et oui.
Ben oui.
Qu'est-ce que tu fais dans ce cas-là, bien vite? Est-ce que t'es là, jouer à Laval pour pas hypothéquer ta masse salariale en haut en les rachetant?
Ben d'abord,
si t'es pas capable de dépasser un autre club?
D'abord, Osner, pour moi, je le rachèterais. J'achèterais son contrat. Oui, s'il reste encore un an, je suis capable de vivre avec, et tout ça, j'ai pas de problème. Mais 11 heures, moi, je rachèterai son contrat. À moins que vraiment Joël Bouchard dise j'ai besoin de lui dans la Ligue américaine.
Canadien manque pas d'argent, en tout cas. Il n'y a pas de plafond salarial pour ce que tu dépenses en dehors.
Je pense que Ben, c'est un gars qu'on reverra peut-être pas à Montréal l'an prochain. Je fais mon call. Parce que Ben, il veut au moins 3 ans. Puis le Canadien va y en donner peut-être 2.
Ah.
Mais jamais. Je te dis, jamais 3. Alors, Ben, ça se peut que Ben n'y soit pas. Alors, écoute bien, là, c'est simple. Jolson, là, je te le dis tout de suite, là, c'est pas dans la Ligue nationale l'année prochaine, là. OK? Pas avec le Canadien. Il va jouer à Laval. Fait que Jolson, là, il sera pas ton partant l'année prochaine comme défenseur. Ben n'y sera fort probablement pas. Romanov va être encore dans KHL. Tu sais, fait que, tu regardes les jeunes aussi, là, les Peeling, ça va prendre du temps. Laval, Suzuki, ça va prendre du temps encore.
Là, de signer Laurent Kulak, t'as Mété. Bon, tu me dis que Ben, selon toi, ne reviendrait pas. T'as Ouellet qui a un contrat à double sens et t'as Riley qui est agent libre avec restriction. Ouais. Est-ce que t'as l'impression que Marc Bergevin va tenter d'aller chercher du renfort via les joueurs autonomes? Puis à quelle position? À la défense ou en avant du
chêne? Les joueurs autonomes. Moi, là, je te le dis tout de suite, là. Je vous le dis tout de suite, tout le monde à l'écoute, là. Attendez-vous pas à un gros coup. OK? Les gros coups, là, se sont faits l'année passée. OK? L'équipe que vous avez qu'on a eue l'année passée, c'est l'équipe de l'année qui s'en vient, là, mais avec des ajouts, puis avec l'avenir, l'arrivée de certains jeunes aussi, puis des jeunes qui se sont développés, là, hein? Kotkaniemi va être meilleur que l'an dernier. Fait que, non. Je pense pas qu'on... Attendez-vous pas au gros coup.
Pas de gros coup via transaction, mais via l'autonomie. Marc Bergevin a dit qu'il a été très agressif ces dernières années. Donc, il n'y a pas eu de gros coup, mais c'est pas parce qu'il essayait pas.
Non.
Donc, si on pense au prochain mois, il y aura pas de gros coup parce qu'il essayera pas, ou il y aura pas de gros coup parce que ceux qui veulent, ils veulent pas venir ici?
Ben, c'est parce que Panarin s'en va en Floride. OK, go. Let's go. Ça, c'est fini. C'est terminé. Panarin s'en va en Floride. Duchesne s'en vient pas à Montréal. Go. Ça finit là. Tu sais, je veux dire, il y a des gros coups, là. Cherche-les, trouve-les, parle-moi-en, on verra bien. Puis si t'en trouves un, il y a 75-70% des chances qu'il ne veut pas venir jouer à Montréal. Fait que tu viens d'éliminer Duchesne, tu viens d'éliminer Panarin, t'as pas Carlson. Ben, regardez comme vous voudrez, là. Tout le monde, là, dans vos agents libres, là, puis essayez d'en trouver un, puis juste demander à son agent, voir si ça lui tente de jouer à Montréal. Puis là, on va s'apercevoir que ça se peut fortement que le Canadien va négocier une transaction quelconque avec une petite équipe ou quelque chose en quelque part, pas aller chercher, va essayer de faire un bon coup.
Si train va loin, Ron. Si train va loin,
mais attendez-vous pas à des miracles.
Ron, merci beaucoup de nous avoir parlé ce soir aux amateurs de sport. Et c'est pas parce que t'es loin du micro depuis quelques semaines que t'as l'air loin de tes dossiers. Merci de nous avoir partagé tout ça ce soir à l'émission.
Avec grand plaisir, Mario. Salut tout le monde.
Une excellente fin de semaine. Le soleil est sorti. Pince-toi pas.
Ouais.
Salut.
Ouais, je suis bien content.
Salut, Ron.
Bye.
Bye-bye. Également à venir à l'émission ce soir, une entrevue avec Martin Raymond, qui était l'entraîneur adjoint à Guy Boucher avec les Sénateurs d'Ottawa. Et pour la première fois, il revient sur l'incident du taxi ou du véhicule Uber où il a été écorché par les joueurs, dont Matt Duchesne.
C'est sûr qu'il est plus mature. Il vient d'avoir un enfant aussi. Puis Matt et moi, on s'est parlé après l'incident, presque à tous les jours. Là. J'ai absolument rien à dire de méchant de Matt, bien au contraire. Matt, il se sentait tellement mal. Il s'est excusé, je sais pas combien de fois, là, personnellement à moi. Puis il a écrit un mot à ma famille pour s'excuser. Là. C'est vraiment pas Matt Duchesne, ça.
Et juste après la pause, on vous revient avec des nouvelles de Roland-Garros en compagnie d'Hélène Pelletier, où Raphaël Nadal n'a fait qu'une bouchée de Roger Federer, mais on attend toujours l'identité de l'adversaire de Nadal en finale. À tout de suite.